Lord Glass. Dans ce rapport fondamental, où le sujet est ce que j'ai appelé juste ici le désir de l'autre avec un grand A. L'analyse a toujours vu et garde pour objet la découverte d'un désir. C'est, vous l'admettrez, pour quelques raisons structurales, que je suis amené cette année à dégager, à faire fonctionner comme tel, à cerner, à articuler ceci autant par la voie d'une définition, disons algébrique, une articulation où la fonction apparaît dans une sorte de béance, de garde, de résidu de la fonction signifiante comme telle. Mais je le fais aussi, touche par touche, au moyen d'exemples. C'est la voie je prendrai aujourd'hui. Dans toute avancée, dans tout avènement de ce petit ça, comme tel, l'angoisse apparaît justement en fonction de son rapport au désir de l'autre. Mais son rapport au désir du sujet, quel est-il? Il est situable sous la formule que j'ai avancée en son temps, petit a n'est pas l'objet du désir, celui que nous cherchons à révéler dans la nuit. Il en est la cause. Ce trait est essentiel, car si l'angoisse marque la dépendance de toute constitution du sujet. Sa dépendance de l'autre, avec un grand A, le désir du sujet, se trouve donc appendu à cette relation par l'intermédiaire de la constitution première, antécédente du petit A. C'est là l'intérêt qui me pousse à vous rappeler comment s'annonce cette présence du petit A comme cause du désir dès les premières données de la recherche analytique. Il s'annonce d'une façon plus ou moins voilée, justement dans la fonction de la cause. Cette fonction est repérable dans les données premières de notre champ, celui sur lequel s'engage la recherche, c'est à savoir le champ du symptôme. Dans tout symptôme, en tant qu'un terme de ce nom, et ce qui nous intéresse, cette dimension que je vais essayer de faire jouer devant vous aujourd'hui se manifeste. Pour vous le faire sentir, je partirai d'un symptôme dont ce n'est pas pour rien qu'il a, vous le verrez après coup, cette fonction exemplaire, c'est à savoir du symptôme de l'obsessionnel. Mais, je l'indique dès à présent, si je l'avance, c'est qu'il nous permet d'entrer dans ce repérage de la fonction de petit A en tant qu'il se dévoile, fonctionnant dès les données premières du symptôme dans la dimension de la cause. Qu'est-ce que l'obsessionnel vous présente? Sous la forme pathognomonie, suivie de sa position, c'est l'obsession ou compulsion. Pour lui, ou non articulé en une motivation dans son langage intérieur, va faire ceci ou cela, vérifier que la porte est ou non fermée, le robinet, on verra peut-être tout à l'heure. Et ce symptôme prend sous sa forme la plus exemplaire, implique que la non-suite, si je puis dire, de sa ligne éveille l'angoisse. C'est là ce qui fait que le symptôme, je dirais, nous indique dans son phénomène même que nous sommes au niveau le plus favorable pour lier la position de petit A autant au rapport d'angoisse qu'au rapport de désir. L'angoisse apparaît en effet. Pour le désir, au départ, avant la recherche freudienne historiquement, avant l'analyse dans notre pratique, il est caché. Nous savons quelle peine nous avons à le démasquer. Si nous le démasquons jamais, mais ici mérite d'être mise en valeur cette donnée de notre expérience qui apparaît dès les toutes premières observations de Freud et qui, je dirais, constitue, même si on ne l'a pas repéré comme tel, peut-être le pas le plus essentiel dans l'avancée dans la névrose obsessionnelle. C'est que Freud et nous-mêmes tous les jours avons reconnu, pouvons reconnaître ce fait que la démarche analytique ne part pas de l'énoncé du symptôme tel que je viens de vous décrire, c'est-à-dire selon sa forme classique, celle qui était déjà définie depuis toujours, la compulsion avec la lutte anxieuse qui l'accompagne. Mais la reconnaissance de ceci, que ça fonctionne comme ça. Cette reconnaissance n'est pas un effet détaché du fonctionnement de ce symptôme. Ça n'est pas épiphénoménalement que le sujet a à s'apercevoir que ça fonctionne comme ça. Le symptôme n'est constitué. Quand le sujet s'en aperçoit, car nous savons par expérience qu'il est des formes de comportement obsessionnel où le sujet, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas repéré ses obsessions, c'est qu'il ne les a pas constitué comme tel, et le premier pas dans ce cas de l'analyse, les passages de Freud là-dessus sont célèbres, est que le symptôme se constitue dans sa forme classique. Sans ça, il n'y a pas moyen d'en sortir. Et non pas simplement parce qu'il n'y a pas moyen d'en parler, parce qu'il n'y a pas moyen de l'attraper par les oreilles. Qu'est-ce que c'est que l'oreille en question? C'est ce quelque chose que nous pouvons appeler le non-assimilé par le sujet du symptôme. Pour que le symptôme sorte de l'état d'énigme qui ne serait pas encore formulé, le pas n'est pas qu'il se formule, c'est que de dans le sujet, quelque chose se dessine dont le caractère est qu'il lui est suggéré qu'il y a une cause à ça. C'est là la dimension originale, ici prise dans la forme du phénomène, dont je vous montrerai où ailleurs on peut la retrouver. Dimension qu'il y a une cause à ça. Où seulement l'implication du sujet dans sa conduite se rompt. Cette rupture et cette complémentation nécessaire que le symptôme, pour nous, soit abordable. Ce que j'entends vous dire et vous montrer, c'est que ce signe ne constitue pas un pas dans ce que je pourrais appeler l'intelligence de la situation. Qui qu'il est quelque chose de plus, qu'il y a une raison pour que ce pas soit essentiel dans la cure de l'obsession. Ceci est impossible à articuler si nous ne manifestons pas d'une façon tout à fait radicale la relation de la fonction de A, cause du désir, à la dimension mentale comme telle de la cause. Ceci, je l'ai déjà indiqué dans les apartés visibles de mon discours, elle l'est écrit quelque part, en un point que vous pourrez retrouver de l'article Kant avec Sade, qui est paru dans le numéro d'avril de la revue Critique. C'est là-dessus que j'entends faire jouer aujourd'hui le principal de mon discours. Dès maintenant, vous en voyez l'intérêt qui est de marquer, de rendre vraisemblable que cette dimension de la cause indique et seule indique l'émergence, la présentification dans les données de départ de l'analyse de l'obsessionnel de ce petit acte autour de quoi c'est l'avenir de ce que pour l'instant j'essaie de vous expliquer autour de quoi doit tourner toute analyse du transfert pour ne pas être obligé, nécessité à tourner dans un cercle certes n'est pas rien, le circuit est parcouru. Mais il est clair qu'il y a, c'est pas moi qui l'ai énoncé, un problème de la fin de l'analyse, celui qui s'énonce ainsi. L'irréductibilité d'une névrose de transfert cette névrose de transfert est ou n'est pas la même que celle qui était détectable au départ. Assurément, elle a cette différence d'être tout entière présente. Elle nous apparaît quelquefois en impasse, c'est-à-dire aboutir à une parfaite stagnation des rapports de l'analysé à l'analyste. Elle n'a en somme de différence qu'à tout ce qui pouvait se produire d'analogue au départ de l'analyse que d'être tout entière rassemblée. on entre dans l'analyse par une porte énigmatique. Car la névrose de transfert chez tout un chacun, même chez Alcibiade, est là. C'est Agathon qui l'aime. Même chez un être aussi libre qu'Alcibiade, transfert évident, encore que cet amour soit ce qu'on appelle un amour réel. Ce que nous appelons trop souvent transfert latéral, c'est là qu'elle transfère. L'étonnant est qu'on entre dans l'analyse malgré tout cela qui nous retient dans le transfert fonctionnant comme réel. Le vrai sujet d'étonnement concernant le circuit de l'analyse, c'est comment, y entrant, malgré la névrose de transfert, on peut obtenir à la sortie la névrose de transfert elle-même. Sans doute, est-ce parce qu'il y a quelques malentendus concernant l'analyse du transfert. Sans cela, on ne verrait pas se manifester cette satisfaction quelquefois, telle que j'ai entendu exprimer, qu'avoir donné forme à cette névrose de transfert, c'est peut-être pas la perfection, mais c'est tout de même un résultat. C'est vrai. C'est tout de même un résultat lui-même assez perplexifiant. Si j'énonce que la voie passe par petit a, seul objet à proposer à l'analyse du transfert, ceci ne veut pas dire que ça ne laissera pas ouvert, vous le verrez, un autre problème. Et justement, dans cette soustraction que peut apparaître cette dimension essentielle, celle d'une question depuis toujours posée en somme, mais certainement pas résolue, car chaque fois qu'on la pose, l'insuffisance des réponses est vraiment sensible, évidente, éclatante à tous les yeux, celle du désir de la nature. Ce bref rappel, pour vous montrer l'intérêt de l'enjeu présent, ce bref rappel est en fait, revenons à petit a. Petit a est la cause du désir. vous ai indiqué que ce n'est pas une mauvaise façon de le comprendre que de revenir à l'énigme que nous propose le fonctionnement de la catégorie de la cause. Car enfin, il est bien clair que quelque critique, quelque effort de réduction phénoménologique ou pas que nous lui appliquions, cette catégorie fonctionne. Et non pas comme une étape seulement archaïque de notre développement. Ce qu'indique la façon dont j'entends le rapporter ici à la fonction originelle de l'objet petit a comme cause du désir signifie le transfert de la question de la catégorie causalité de ce que j'appellerais avec Kant l'esthétique transcendantale à ce que, si vous voulez bien y consentir, j'appellerais mon éthique transcendantale. Et là, je suis forcé de m'avancer dans un terrain dont je suis forcé, enfin, je venais simplement de balayer les côtés latéraux avec un projecteur, sans pouvoir même insister. Conviendrait, dirais-je, que les philosophes fissent leur travail. Et s'aperçoivent, par exemple, et osent formuler quelque chose qui vous permettrait de situer vraiment à sa place cette opération que j'indique en disant que j'extrais la fonction de la cause du champ de l'esthétique transcendantale de celle de Kant. Conviendrait que d'autres vous indiquent que ce n'est là qu'une extraction en quelque sorte toute pédagogique. Parce qu'il y a bien des choses d'autres qu'il convient d'extraire de cette esthétique transcendantale. Et là, il faut que je fasse au moins à l'état d'indication ce que j'ai réussi par un tour de passe-passe à éluder la dernière fois quand je vous parlais du champ scopique du désir. Je ne peux pas y couper. Il faut tout de même bien ce que je dis. J'indique ici, au moment même où je m'avance plus loin, ce qui était impliqué dans ce que je vous disais, à savoir que l'espace n'est pas du tout une catégorie a priori de l'intuition sensible. Il est très étonnant qu'au point d'avancement où nous en sommes de la science, personne ne se soit encore attaqué directement à ceci. À quoi tout nous sollicite, à formuler que l'espace n'est pas un trait de notre constitution subjective, au-delà de quoi la chose en soi trouverait, si l'on peut dire, un champ libre. À savoir que l'espace fait partie du réel. Et qu'après tout, dans ce que j'ai énoncé, articulé, dessiné ici devant vos yeux l'année dernière avec toute cette topologie, il y a quelque chose où heureusement certains ont senti la note. Cette dimension topologique, en ce sens que son maniement symbolique transcende l'espace, a évoqué à beaucoup, pas seulement à certains, tant de formes qui nous sont présentifiées par les schémas du développement de l'embryon, forme singulière par cette commune singulière gestalt qui est la leur et qui nous porte bien bien loin de la direction où la gestalt s'est avancée, c'est-à-dire de la direction de la bonne forme, nous montre au contraire quelque chose qui se reproduit partout et dont, dans une notation impressionniste, je dirais qu'elle est sensible dans une sorte de tension à laquelle l'organisation de la vie semble obligée pour se loger dans l'espace réel. La chose est partout présente dans ce que je vous ai expliqué l'année dernière et aussi bien cette année, car c'est justement en ces points de tension que se produisent aussi les points de rupture dont j'essaie de vous montrer la portée dans plus d'un cas, d'une façon liée à notre propre topologie, celle du grand S, du grand A et du petit A, d'une façon qui soit plus efficace, plus vraie, plus conforme au jeu des fonctions, que tout ce qui est repéré dans la doctrine de Freud, de cette façon dont les différences, les vacillations sont elles-mêmes déjà indicatives de la nécessité de ce que je fais là. Seul ce qui est lié à l'ambiguïté chez lui, par exemple, des relations, moi, non moi, contenu, contenant, moi, le monde extérieur. Toutes ces divisions, il saute aux yeux qu'elles ne se recouvrent pas. Pourquoi? Faut d'avoir saisi de quoi il s'agit dans la topologie et d'avoir trouvé d'autres repères, cette topologie subjective qui est ici celle que nous explorons. J'en finis avec cette indication dont je sais au moins que certains savent très bien la portée à m'avoir entendu maintenant. La réalité de l'espace en tant qu'espace à trois dimensions c'est là quelque chose essentiel à saisir pour définir la forme que prend au niveau de l'étage que j'ai essayé d'éclairer dans nos dernières leçons sous la fonction de l'étage copique, la forme qui prend la présence du désir nommément comme Pota. C'est à savoir. Que ce que j'ai essayé de définir dans la structure du fantasme, à savoir la fonction du cadre, entendez, de la fenêtre, n'est pas une métaphore. Si le cadre existe, c'est parce que l'espace est réel. Pour ce qui est de la cause, essayons d'appréhender dans ceci même qui est le la broussaille commune laissée chez vous par les connaissances qui vous sont léguées d'un certain brouhaha philosophique, par le passage à travers une classe désignée de ce nom, philosophie, qu'il est bien clair qu'un indice sur cette origine de la fonction de la cause nous est très clairement donné dans l'histoire par ceci. C'est que c'est à mesure de la critique de cette fonction de la cause, de la tentative de remarquer qu'elle est assez sale, que ce propre Théroc est forcément toujours au moins un post-Hoc, et qu'est-ce qu'il faut que ce soit d'autre pour équivaloir à cet incompréhensible propre Théroc, sans quoi d'ailleurs nous ne pouvons même pas commencer à articuler quoi que ce soit. Mais bien sûr, cette critique a sa fécondité, et on la voit dans l'histoire. Plus la cause est critiquée, plus les exigences qu'on peut appeler celles du déterminisme se sont imposées à la pensée. Moins la cause est saisissable, plus tout apparaît causé. Au dernier terme, celui qu'on a appelé le sens de l'histoire. Je ne veux rien dire d'autre que tout est causé. À ceci près, que tout ce qui s'y passe résulte et dépasse toujours d'un assez causé, au nom de quoi se reproduit dans l'histoire un commencement que je n'oserais pas appeler absolu, mais qui était certainement inattendu, et qui donne le classique. Il a d'ordre aux prophètes Nacht et Glich, qui sont le quotidien aux prophètes, qui sont les interprétateurs professionnels du sens de l'histoire. Alors, cette fonction de la cause, disons, sans plus, comment ici nous l'envisageons. Nous l'envisageons, cette fonction partout présente dans notre pensée de la cause. Je dirais, d'abord, pour me faire entendre l'ombre portée, mais très précisément et mieux, la métaphore. De cette cause primordiale, substance, cette fonction de la cause, qui est précisément le petit tas en tant qu'antérieur à toute cette phénoménologie. Petit tas
nous l'avons définie comme le reste de la constitution du sujet au lieu de l'autre en tant qu'il a à se constituer en sujet pareil. Si le symptôme, c'est ce que nous disons, c'est-à-dire tout entier implicable dans ce processus de la constitution du sujet en tant qu'il a affaire au lieu de l'autre, l'implication de la cause dans l'avènement symptomatique tel que je vous l'ai défini tout à l'heure, fait partie légitime de cet avènement. Ceci veut dire que la cause impliquée dans la notion, dans la question du symptôme est littéralement, si vous le voulez, une question. Mais dont le symptôme n'est pas l'effet. Il en est le résultat. L'effet, c'est le désir. Mais c'est un effet unique et tout à fait étrange. En ceci, que c'est lui qui va nous expliquer, ou tout au moins nous faire entendre les difficultés qu'il y a eu à lier la relation commune qui s'impose à l'esprit de la cause à l'effet. C'est que l'effet primordial de cette cause, petit a, au niveau du désir, cet effet qui s'appelle le désir, et cet effet que je viens de qualifier d'étrange, en ce que, remarquez-le, puisque c'est justement le désir, c'est un effet qui n'a rien d'effectué. Le désir pris dans cette perspective se situe en effet essentiellement comme un manque d'effet. La cause ainsi se constitue comme supposant des effets de ce fait que primordialement l'effet y fait défaut. Et ceci se retrouve, vous le retrouverez dans toute sa phénoménologie. Le gap entre la cause et l'effet, à mesure qu'il est comblé, c'est bien cela, tout ce qui s'appelle dans une certaine perspective le progrès de la science, fait s'évanouir la fonction de la cause. J'entends là où il est comblé. Aussi bien l'explication de quoi que ce soit aboutit à mesure qu'elle s'achève à n'y laisser que des connexions signifiantes. À volatiliser ce qui l'animait dans son principe, ce qui a poussé à s'expliquer. C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas, la béance effective. Et il n'y a pas de cause qui se constitue dans l'esprit comme telle qui n'implique cette béance. Ça peut tout ça vous sembler bien superflu. Néanmoins, c'est ce qui permet de saisir ce que j'appellerais la naïveté de certaines recherches de psychologues, et nommément de celle de Piaget. Les voies où je vous mène cette année, vous l'avez déjà vu s'annoncer, par une certaine évocation de ce que Piaget appelle le langage égocentré. Comme Piaget le reconnaît lui-même, il l'a écrit, si je ne l'interprète pas, son idée de l'égocentrisme d'un certain discours enfantin part de cette supposition. Il croit l'avoir démontré. Que les enfants ne se comprennent pas entre eux. Ils parlent pour eux-mêmes. Le monde de supposition qu'il y a là-dessous est, je ne dirais pas insondable. On peut en préciser la majeure, c'est une supposition excessivement répandue, c'est-à-dire que la parole est faite pour communiquer. Ce n'est pas vrai. Si Piaget ne peut pas saisir cette sorte de gaffe, là encore, qu'il désigne pourtant bien lui-même, et c'est vraiment l'intérêt de la lecture de ses travaux, je vous supplie, si c'est que j'y revienne ou que je n'y revienne pas, de vous emparer du langage et de la pensée chez l'enfant, qui est somme toute un livre admirable. Il illustre à tout instant combien ce que Piaget recueille de fait dans cette démarche aberrante en son principe, est démonstratif de toute autre chose que de ce qu'il pense. Naturellement, comme il est loin d'être un sot, il arrive que ses propres remarques à lui, Piaget, soient dans cette voie même. En tous les cas, par exemple, le problème, savoir pourquoi ce langage du sujet est fait essentiellement pour lui, ne se produit jamais qu'en groupe. Ce qui manque, je vous prie de lire ces pages, parce que je ne peux pas dépouiller avec vous, mais à chaque instant, vous verrez comment la pensée glisse, adhère à une position de la question qui est justement celle qui voile le phénomène par ailleurs très clairement manifesté. Et l'essentiel, en est essentiellement ceci, qu'autre chose, c'est de dire que la parole a essentiellement pour effet de communiquer, alors que l'effet de la parole, l'effet du signifiant, est de faire surgir dans le sujet la dimension du signifié, essentiellement. Faire venir, s'il le faut une fois de plus. Que ce rapport à l'autre qu'on nous dépeint ici, comme la clé sous le nom de socialisation du langage, la clé du point tournant entre langage égocentrique et le langage achevé, dans sa fonction, Ce point tournant n'est pas un point d'effet, d'un fait effectif. Il est dénommable comme désir de communiquer. C'est bien d'ailleurs parce que ce désir est déçu, c'est bien que la chose est sensible, que toute sa pédagogie ici vient dresser ses appareils et ses fantômes. À ses pincées, en somme, que l'enfant lui apparaît, ne le comprendre qu'à demi, il ajoute, ils ne se comprennent même pas entre eux. Mais est-ce que c'est là la question? La question, on voit très bien dans son texte comment elle n'est pas là. On le voit à la façon dont il articule ce qu'il appelle compréhension entre enfants. Vous le savez, voilà comment il procède. Comment? Par exemple, le schéma suivant, qui va être celui dépeint sur une image qui va être le support des explications. Le schéma d'un roman. Ça donnera quelque chose d'à peu près comme ça, ce qui est dans les branches du robinet. On dira à l'enfant, d'autant de points qu'il le faudra, voir le petit tuyau ici, qu'on appellera aussi la porte, de bien d'autres façons encore, il est bouché, ce qui fait que l'eau qui est là ne peut pas couler au travers pour venir ici. Donc on appellera aussi, d'une certaine façon, le tissu, etc. Il explique. Parce qu'il a mis ce schéma, vous pouvez le contrôler. Il a cru d'ailleurs, je le signale en passant, devoir compléter lui-même dans la présence de la cuvette, qui n'interviendra absolument pas dans les 10, 9, 7 points. Il lui donne de l'explication. Ben, tout à fait frappé de ceci, c'est que l'enfant répète fort bien tous les termes de l'explication que lui, Cajet, lui a donné. Cet enfant, il va s'en servir comme explicateur pour un autre enfant qu'il appellera, bizarrement, le reproducteur. Premier temps, il remarque, il entend quelque étonnement, parce que l'enfant a si bien répété ce qui pour lui va sans dire que cela veut dire qu'il a compris, je ne dis pas qu'il a tort. Je dis que Piaget ne se pose même pas la question. Que ce que l'enfant lui a répété à lui, Piaget, dans l'épreuve qu'il a faite, dans sa perspective de voir ce que l'enfant a compris, ne va pas être du tout identique à ce qu'il va expliquer à l'autre. Quoi qu'il y a, fait cette très juste remarque qu'il est libre dans ses explications. C'est justement ce que l'enfant a compris. Sans s'apercevoir qu'à donner cette explication, ça impliquerait qu'il n'explique lui rien du tout. L'enfant. S'il a vraiment tout compris, comme le disait. C'est bien entendu pas vrai. Il a tout compris. Vous allez le voir, non plus que personne. Avec ces explications très insuffisantes que donne l'explicateur au reproducteur, ce qui étonne bien, c'est que dans un champ comme celui de ces exemples, c'est-à-dire le champ qu'il appelle des explications, là, il laisse de côté pour le temps le champ qu'il appelle celui des histoires. Pour les histoires, ça fonctionne autrement. Mais qu'est-ce que Piaget appelle des histoires? Je vous assure qu'il y a une façon de transcrire l'histoire de Niobe qui est un pur scandale. Car il ne semble pas lui venir à l'esprit que quand on parle de Niobe, on parle d'un mythe, et qu'il y a peut-être une dimension du mythe qui s'impose, qui colle absolument au seul terme qui s'avance sous ce nom de Niobe, qu'elle transforme en une sorte de lavasse émolliente. Je vous prie de vous reporter à ce texte qui est tout simplement fabuleux. On propose peut-être à l'enfant quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de sa portée, qui est simplement quelque chose qui signale un profond déficit de l'expérimentateur qui agit lui-même au regard de ce que sont les fonctions du langage. Si on propose un mythe, que ça soit un mythe. Et non pas cette vaste petite histoire. Il y avait une fois une dame qui s'appelait Niobe qui avait 12 filles, qu'elle a rencontré une fée qui n'avait qu'un fils et 20 filles. Alors la dame s'est moquée de la fée parce que la fée n'avait qu'un garçon. La fée alors s'est fâchée et a attaché la dame à un rocher. La dame a pleuré pendant 10 ans, à la fin elle a été changée en rocher, ses larmes ont fait un ruisseau qui coule encore. Ceci a vraiment d'équivalent que les deux autres histoires que propose Piaget, celle du petit noir qui casse son gâteau à l'aller et fait fondre la motte d'odeur au retour, et celle, pire encore, des enfants transformés en signes qui restent toute leur vie séparés de leurs parents par ce maléfice, mais qui, quand ils reviennent, non seulement couvrent leurs parents morts, mais recevant leur première forme, en retrouvant leur première forme, et néanmoins vieillis. Je ne sache pas qu'il y a un seul mythe qui laisse courir pendant la transformation le cours du vieillissement. Pour tout dire, les inventions de cette histoire de Piaget ont ceci de commun avec celle de Binet, qu'elle reflète la profonde méchanceté de toute position pédagogique. Je m'en pardonne de me laisser égarer sur cette parenthèse. Revenons à mes explications. Au moins, y aurez-vous compris cette dimension, notée par Piaget lui-même, que ça, c'est d'entropie, si je puis dire, de la compréhension. Il va bien se faire à se dégrader du fait d'être nécessité vers la signification d'une grande surprise, d'une contraste énorme entre les deux. Quand il s'agit d'un thème comme celui-là explicatif, c'est ce qui se passe dans ces histoires, histoires que je mets entre guillemets, je vous le répète, car il est très probable que si les histoires confirment sa théorie, prochaine, l'entropie, c'est juste parce que ce ne sont pas des histoires. Et si c'était des histoires, le vrai il n'y aurait probablement pas cette dérive. En tout cas, moi je vous en donne un petit signe. C'est dans un de ses enfants, quand il a arrêté des histoires de Niobe, il fait surgir au point où Piaget dit que la dame a été attachée à un rocher. Ça n'est aucune forme de mythe. Il a articulé un tel temps. L'autre toile, vous dira-t-on, sur une faute de diction, sur le calembour. Mais pourquoi, justement, celui-là fait surgir la dimension d'un rocher qui a une tache? Restituant tout d'un coup la dimension de séminaire précédent qui vous faisait surgir comme essentiel la victime du sacrifice, celui dans le n'en pas d'avoir. Mais les ceci n'est bien entendu pas preuve, mais seulement sujet. Je reviens à mes explications et à la remarque de Piaget. Que malgré le défaut d'explication, je veux dire le fait que l'explication est mal, celui auquel on explique comprend beaucoup mieux que l'explicateur se témoigne par son insuffisante explication avoir compris. Bien sûr, ici l'explication surgit toujours. Il refait le travail lui-même. Parce que le taux de compréhension en pensant, comment le définit-il? Ce que le reproducteur a compris sur numérateur, dénominateur, ce que l'explicateur a compris. C'est ainsi pour remarquer qu'il n'y a qu'une chose, là dont on ne parle jamais, c'est de ce que Piaget lui a compris. C'est pourtant essentiel, puisque nous ne laissons pas là les enfants au langage spontané, c'est-à-dire avoir qu'ils comprennent quelque chose de la chose. Or, il est clair. Que ce que Piaget semble n'avoir pas vu, c'est que son explication à lui, du point de vue de quiconque, de quelque autre tiers, ça ne se comprend pas du tout. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, si ce petit tuyau ici couché est grâce à ceci, ou que Piaget donne toute son importance, opérateur des doigts qui vont tourner en aérodynamique de façon telle que l'eau puisse couler, est-ce que ça veut dire qu'elle coule? Il n'y a pas la moindre précision là-dessus dans Piaget. Bien entendu, c'est bien que s'il n'y a pas de pression, le robinet ne donnera rien, même si vous le tournez. Mais qui croit pouvoir l'omettre, parce qu'il se met au niveau du soi-disant esprit de l'enfant. Laissez-moi suivre. Ça a l'air tout à fait bête, tout ça, mais vous allez voir. Le surgissement, le jaillissement, du sens de toute l'aventure ne sort pas de mes spéculations, mais de l'expérience. Vous allez le voir. Il ressort tout de même de cette remarque que je vous fais. Moi, je ne prétends pas avoir exhaustivement compris. Il y a une chose très certaine. C'est que l'explication du robinet n'est pas bien donnée s'il s'agit du robinet comme cause, à dire que sa manœuvre tantôt ouvre, tantôt ferme. Un robinet, c'est fait pour fermer. Il suffit qu'une fois, du fait d'une grève, vous deviez ne plus savoir à quel moment la pression doit revenir pour savoir que si vous l'avez laissé ouvert, c'est plein d'inconvénients. Il convient donc qu'il soit fermé même quand il n'y a pas de pression. Or, qu'est-ce que marque ce ce qui se base sur la transmission de l'éducateur au reproducteur. C'est quelque chose que Piaget développe. C'est que l'enfant reproducteur, soi-disant, s'intéresse plus à tout ce dont il s'agit concernant ces deux branches, l'opération des doigts et tout ce qui s'en fout. Pourtant, faites-vous remarquer, l'autre en a tout de même transmis une certaine partie. La déperdition de compréhension lui semble énorme. Mais je vous assure, si vous lisez les explications du petit Pierre, du petit reproducteur, du petit RIV dans le texte en question, vous vous apercevrez que ce sur quoi, justement, il met l'accent, c'est sur deux choses. À savoir l'effet du repli comme étant quelque chose de ferme et le résultat, à savoir que grâce à un robinet, on peut remplir une cuvette sans qu'elle dépasse. Le jaillissement comme tel de la dimension du robinet comme cause, pourquoi est-ce que quelqu'un manque si bien le phénomène qui se produit, si ce n'est que parce qu'il méconnaît totalement ce qu'il y a pour un enfant d'intéressant dans un robinet comme pauvre, ce sont les délires que le robinet chez lui provoque. À savoir que par exemple ça lui donne envie de faire pipi, ou comme chaque fois qu'on est en présence de l'autre, on est par rapport à cet autre un vase communicant. Pour vous parler de la libido, j'ai pris cette métaphore de ce qui se passe entre le sujet et son image pédale. Il en avait quelques tendances à oublier qu'il est en présence de l'eau comme un vase communicant. Il y a dans l'enfance de la plupart le boc à la demande pour le lui rappeler. Qu'effectivement, ce qui se produit d'un enfant de l'âge de ce que nous désigne Piaget en présence d'un robinet, c'est cet irrésistible type d'acting-out qui consiste à faire quelque chose qui aura les plus grands risques de le démonter. Moyennant quoi, le robinet se trouve une fois de plus à sa place de cause, c'est-à-dire au niveau aussi de la relation phallique, comme ceci qui introduit nécessairement que le petit robinet est quelque chose qui peut avoir rapport avec le plombier, c'est-à-dire qu'on peut éviter, remonter, remplacer, moins. Ce n'est pas d'omettre ces éléments de l'expérience qu'aussi bien que d'un jet d'ailleurs, très informé des choses analytiques, n'ignore pas que j'entends souligner le fait, c'est qu'il ne voit pas le rapport de ces relations que nous appelons nous complexelles avec toute constitution originelle, et c'est ceci qu'il prétend interroger, de la fonction de la cause. Nous reviendrons sur ce langage de l'enfant. Je vous ai indiqué que de nouveaux témoignages des travaux originaux dont on s'étonne qu'ils n'aient pas été faits jusqu'ici, nous permettent maintenant de saisir vraiment une statue de la paix. Le premier Dieu, le plus conscient, dans ses monologues, il dit, non, bon, tu très très petit enfant à la vie de Dieu. Et si c'est digne, je vous dirai ces textes dans leur temps, sous une forme patente. Le complexe divin, c'est déjà articulé, donnant ici la preuve expérimentale de l'idée que j'ai toujours avancée devant vous, que l'inconscient est essentiellement effet du sinistre. J'en finirai à ce propos avec la position des psychologues, car l'ouvrage dont je vous parle est fait à tout. Par un psychologue au premier plan fort sympathique, en ce sens qu'il avoue, il n'est jamais arrivé qu'un psychologue s'intéresse vraiment à ses fonctions. À partir de l'idée, avec le psychologue, la supposition qui revient n'est notable d'intéressant concernant l'entrée en jeu du langage dans le sujet, sinon au niveau de l'éducation. En effet, le langage papa. Mais qu'est-ce qu'il fait le langage en dehors du champ de l'apprentissage? Il a fallu la suggestion de la justice pour commencer d'y prendre intérêt. Et nous croyons qu'ici, le psychologue rend les armes. Car c'est certainement avec humour qu'il pointe ce déficit jusqu'ici dans les recherches psychologiques. Eh bien, pas du tout. Dans la fin de sa prépa, c'est sûr. Non, à quel point l'habitude du psychologue est véritablement invétérée. La première, c'est que puisque ceci fait un volume d'environ 300 pages et qui pèse lourd, pour avoir recueilli ces monologues d'un temps pendant un mois, et en avoir fait la chronologie complète, de ce train-là, qu'est-ce que ça va nous coûter comme enquête, premièrement. Mais la seconde est plus forte encore. C'est fort intéressant de noter l'article. Mais il me semble, moi, dit-il, ce psychologue qui s'appelle George Miller, que la seule chose qui serait intéressante, c'est de savoir what Rocha, il n'ose. Qu'est-ce qu'il en sait, l'enfant, de ce qu'il dit? Or, c'est justement la question. C'est justement qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Qu'il est très important de noter qu'il le dit tout de même, ce qu'il saura ou ne saura pas plus tard, à savoir les éléments du complexe physique. Il est 2h10. Je voudrais quand même vous donner le petit schéma de ce sur quoi je m'avançais aujourd'hui concernant l'obsessionnel. En 5 minutes, la question comme elle se présente. Si les 5 étages, si je puis m'exprimer ainsi, de la constitution de petit A dans cette relation de S à A, comme vous voyez ici, la première opération. Second temps, qui est ici, n'étant pas hors de toute portée de notre compréhension à partir. Les lois de la transformation de S en S pareil quand il passe dans cette partie à celle-là du cercle de l'air étant à préciser le cercle. Si les 5 étages donc de cette constitution de petit A sont définissables, comme je vais vous le dire maintenant, qui je pense se pose suffisamment du résumé de ce sur quoi j'ai avancé pas à pas dans les leçons précédentes. Au niveau du rapport à l'objet oral, disons, pour être clair aujourd'hui, n'ont pas besoin de l'autre. Cette ambiguïté est riche et nous ne nous refusons certes pas à nous interdire, mais besoin dans l'autre, au niveau de l'autre. C'est en fonction de la dépendance à l'être maternel que se produit la fonction de la disjonction du sujet à ce petit tas, la mamelle, dont vous ne pouvez vous apercevoir de la véritable portée, ceci comme je vous l'ai très suffisamment indiqué, vous voyez que la mamelle fait partie du monde intérieur du sujet et non pas du corps de la mère. Ça passe. Au deuxième étage de l'objet anal, vous avez la demande dans l'autre. La demande éducative par excellence en tant qu'elle se rapporte à l'objet anal. Aucun moyen d'attraper, de saisir quelle est la véritable fonction de cet objet anal, si vous ne le sentez pas comme étant le reste, dans la demande de l'autre, que j'appelle ici pour bien le faire entendre, demande dans l'autre. Toute la dialectique de ce que je vous ai appris à reconnaître dans la version vraie, fonction unique, par rapport à toutes les autres fonctions de petit a, par un manque, par le manque d'un objet, ce manque se manifeste comme tel, dans ce rapport effectivement central, et c'est ceci qui justifie toute l'axation de l'analyse sur la sexualité, que nous appellerons ici jouissance dans l'autre. Le rapport de cette jouissance dans l'autre comme telle à toute introduction de l'instrument manquant que désigne moi ainsi est un rapport inverse. Tel est ce que j'ai articulé dans mes deux dernières leçons, et qui est la base, la suite solide de toute situation efficace, c'est ce que nous appelons angoisse. À l'étage scopique, proprement celui du fantasme, ce à quoi nous avons affaire au niveau de grand A, c'est la puissance dans l'autre. Cette puissance dans l'autre qui est le mirage du désir humain, le condamnant dans ce qui est pour lui la forme dominante, majeure de toute possession, la possession contemplative, à méconnaître ce dont il s'agit, c'est-à-dire d'un mirage de puissance. Vous le voyez, je vais très vite. Je compléterai après. Le cinquième et dernière étape qu'est-ce qu'il y a au niveau du grand tas provisoirement nous dirons que c'est là que doit émerger sous une forme pure. J'ai dit que ce n'est là qu'une formulation provisoire. Ce qui, bien sûr, est présent à tous les étages de ce que j'ai défini comme étage antérieur, à savoir le désir dans l'autre. Ce qui nous le confirme, en tout cas, ce qui nous le signale dans l'exemple d'où nous sommes partis, à savoir l'obsessionnel, c'est la dominante apparente de l'angoisse dans sa phénoménologie. C'est le fait structural dont nous seuls nous apercevons jusqu'à un certain moment de l'analyse. Que quoi qu'il fasse, à quel sera raffinement qui aboutit en se construisant des fantasmes et des traces. Ce que l'obsessionnel, quand il dit vérifier la portée de cette formule, c'est tout le dit dans. C'est dans la mesure du retour de ce désir dans l'autre en tant qu'il est chez nous essentiellement refoulé que tout est commencé dans la symptomatologie de l'obsessionnel et nommément dans les symptômes où la dimension de la cause est entreaperçue comme en. La solution, on la connaît aussi dans le phénomène. Pour couvrir le désir de l'autre, l'obsessionnel a une voix et le recours à sa demande. Observer un obsessionnel dans son comportement biographique. Que j'ai appelé tout à l'heure ces tentatives de passage à l'endroit du Jésus. Ces tentatives fussent-elles les plus audacieuses, elles sont toujours marquées de condamnation originelle à aussi perverse que soit ces tentatives de passage, il lui faut toujours se les faire autoriser. Il faut que l'autre lui demande ça. C'est là le ressort. De ce qui se produit à un certain tournant de toute analyse d'observation. Dans toute la mesure où l'analyse soutient une dimension analogue, celle de la demande, quelque chose jusqu'à un point très avancé, est-il même dépassable, de ce mode d'échappe de l'obsessionnel. Or, vous voyez quelles en sont les conséquences. C'est dans la mesure où l'évitement de l'obsessionnel, c'est la couverture du désir dans l'autre par la demande dans l'autre. C'est dans cette mesure que petit à petit, l'objet de la cause vient se situer là où la demande domine, c'est-à-dire au stamanal, où petit à petit, et non pas très non, simplement comme ça, et la présente en sorte que demain. Or, rien n'a jamais été analysé de ce rapport à l'objet anal dans ses coordonnées psy, qui sont les coordonnées véritables. Pour comprendre la source de ce qu'on peut appeler angoisse anale en tant qu'elle sort d'une analyse obsessionnelle à condition qu'elle ait été jusque-là, il n'y a presque jamais la véritable donne le caractère oui, irréductible et presque en certains cas immaîtrisable de l'apparition de l'angoisse à ce point qu'il devrait paraître un point terme. C'est ce que nous pourrons revoir que la prochaine fois, condition d'articuler tout ce qui résulte du rapport de l'objet anal en tant que cause du désir avec la demande qui le requiert, mais qui n'a rien à faire avec le mode de désir qui est par cette cause déterminé.